Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct du Paris Grand Slam de judo.
Jean-Christophe Drouet.
Ici, les grandes de Bercy tout au long de la matinée. On va vous faire vivre cet événement de judo, évidemment, avec aux commentaires Morgane Maury, les grandes gueules du sport. C'est le samedi, le dimanche jusqu'à midi, avec ce matin Christophe Cessieux, Denis Charvet, Julien Beneteau, Philippe Saint-André. Dans quelques instants, quatre clubs français au rendez-vous de la Ligue des Champions. Est-ce qu'on est injuste avec la Ligue 1? Ce sera le bras de fer des GG. 10h30, le dossier des GG. C'est un week-end de Coupe Davis, mon cher Julien. France-Brésil avec le retour des matchs domicile extérieur. Est-ce le retour de la grande Coupe Davis? On se posera la question. Et puis 11h, évidemment, le 15 de France au programme. Nous en avons parlé à partir de 9h. On va parler à 11h de cette ombre au tableau. Hier, le carton rouge de Romain Ntamack. Est-ce un gros coup dur pour la suite du tournoi? On va débuter cette nouvelle heure, mais GG, avec cette citation de Bernard Grasset qui a dit un jour: la réussite n'est souvent qu'une revanche sur le bonheur.
RMC, le bras de fer GG.
Pourquoi personne ne m'aime?
Mais à l'image de cette frappe qui passera loin des buts.
Pourquoi les gens sont pas gentils avec moi?
Pourquoi pas la frappe qui passe au-dessus?
Pourquoi on n'arrête pas de me critiquer derrière mon dos alors que j'ai rien fait? Moi, j'essaye d'aider les autres, je suis quelqu'un de gentil.
Il y en a, ils ne respectent pas ma mission en Angleterre, ils pensent que c'est la Farmer League, mais voilà.
Ce ballon coupé dans les 6 mètres qui vient mourir à côté du poteau.
J'essaye de rendre service à tout le monde, dès qu'on m'appelle, je suis disponible. On en profite à chaque fois.
On n'était pas loin de l'ennui sur la fin de la première période.
Mais c'est de la merde!
La vie n'est pas juste, tu vois. Moi, hélas, hélas, je ne serai jamais roi. Et toi, tu ne reverras jamais la lumière. Adieu.
C'est la revanche de la Farmers League, la Ligue des fermiers. C'est comme ça que les Anglais voient notre Ligue 1. Et pourtant, nos quatre clubs français qualifiés pour la Ligue des champions ont tous passé la phase de poule. 4 représentants sur 24, c'est autant que l'Angleterre. C'est mieux que l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Est-on injuste avec la Ligue 1? C'est notre question dans le coin gauche. Oui, on est injuste. Ce sera défendu par Philippe Saint-André. Ouais. Dans le coin droit, on n'est pas injuste. Ce sera défendu par Denis Charvet, Christophe Cessieux et Julien Beneteau. Alors sachez que c'est extrêmement rare dans le bras de fer des GG, mais à l'heure où je vous parle, nous sommes à 50-50. Voilà. Vous êtes nombreux à voter sur le compte X des grandes gueules du sport et pour l'instant nous n'arrivons pas à partager ce débat. C'est dire si c'est un très très bon bras de fer des GG ce matin. Juste vous donner le programme des 16e de finale pour nos clubs français parce qu'on en parlera dans quelques instants. Il y aura une confrontation, vous le savez, franco-française entre le PSG et Brest, et Monaco affrontera Benfica. Lille est qualifié pour les 8e de finale.
C'est,
oui,
c'est un si bon débat que 3 de nos GG ont changé d'avis
en quelques heures.
On retournait leur veste. Non, quelques minutes.
Et le
toujours
dit
non, moi.
Et le quatrième va être convaincu par nous très, très vite. Ça va durer 30 secondes.
Non, tu veux que je t'avais dit oui pour arranger. Merci, Denis.
JC nous met beaucoup de pression, c'est pour ça.
Ah, mais non, ouais.
Alors, vous savez quoi?
Avec Denis, je vais pas aller dans la jungle, quand même. Il était avec moi 2 minutes avant, il change.
Mais c'est pour arranger tout le monde.
Alors, Philippe, on commence ce débat. Est-ce qu'on est injuste pour toi? C'est oui, on est injuste avec la Ligue 1, avec ses claques. Mais quatre clubs qualifiés.
T'as tout expliqué. On a autant de représentants que les Anglais. On est mieux que les Espagnols. Sincèrement, moi, Brest, Lille, j'ai vibré sur leur match. Alors oui, on a un problème dans la première division. On peut pas la voir. On n'arrive pas à la voir à la télé. Oui, il y a un vrai problème. Mais sur les résultats.
Si tu payes, tu la vois. Hein.
Ouais. Oui, mais bon, je paye pour le rugby. Moi, je paye pas pour tout. Non, mais. Sincèrement, les résultats, quand tu vois qu'il n'y a même pas Marseille, etc., les résultats de ces quatre clubs, quand tu sais que c'est le PSG qui a eu le plus de mal à se qualifier, et moi, sincèrement, j'ai vibré sur les performances de Brest, de Lille et de Monaco. Donc bravo, chapeau, et on a autant de représentants que les Anglais. Donc qu'est-ce que vous voulez?
Arrêtons de dire qu'on n'est pas au niveau.
Voilà, arrêtons. Soyons français, soyons fiers d'être français.
C'est le niveau.
Non, mais
le problème, vous parlez de deux compétitions différentes.
je suis désolé, t'es obligé de séparer les deux. T'as la Ligue 1 d'un côté, t'as la Champions League de l'autre. La Ligue 1, c'est un championnat, il y a trop d'enjeux. D'abord, on est passé de 20 équipes à 18 équipes, ce qui fait que celui qui est maintenant 17e joue les barrages, je crois,
16e.
Le 16e, 17-18e. Donc imagine maintenant la problématique de se maintenir en Ligue 1. Mais du coup, ça a impacté au niveau du jeu et on s'ennuie. On ne peut pas dire on s'emmerde. Donc je veux dire, la Ligue 1 ne m'expliquait pas que la Ligue 1, c'est un championnat qui est enthousiasmant. Je suis désolé. Et
on a toujours dit. On a toujours dit que le niveau de la Ligue 1. On doit se référer à ce qui se passe en Coupe d'Europe. Alors peut-être qu'on n'aura plus de Français en quart de finale.
Mais la formule n'est pas la même. Donc on est obligé aussi d'évoquer la nouvelle formule qui permet à des équipes comme ça d'exister.
Bien sûr.
Mais sinon, il y aurait l'ancienne formule. Mais tu n'auras aucune équipe en 16e de
finale. Denis, si notre championnat était aussi mauvais, il n'y aurait que des clubs anglais, que des clubs espagnols et les Français ne seraient pas qualifiés.
Non, mais la nouvelle formule. Non.
Attends.
C'est assez mathématique. On a l'habitude de dire qu'on fait partie des 5 plus grands championnats. On a 4 clubs, ça fait 20 clubs par en tout. Si tu fais 5 fois 4, il y en a 24 qui se qualifient. On est dans les maths et il n'y a aucun grand club, il n'y a aucune grande équipe qui passait à la trappe dans cette nouvelle formule. De 25 à 32 ou 34 là, en Ligue des Champions avec ce mini championnat qui était très illisible, où y avait des matchs où il y a quelqu'un, l'autre jour, il y a quelqu'un qui disait que quand tu joues en poule, tu calcules. Parce que tu sais que tu ne vas pas gagner le match contre l'équipe numéro 1. Qu'il faut absolument qu'il fasse match nul chez toi contre l'équipe numéro 2 du chapeau numéro 2.
C'est ce qui s'est passé avec le PSG qui pouvait faire match nul à Stuttgart.
Et là, le fait que ce soit un mini-championnat et que c'était illisible à départ, il y a plein d'équipes qui n'ont pas calculé. Donc ça a profité à Brest, à Lille. Et bravo, ce qu'ils ont fait, c'est top. Rien à dire. Non, mais pas. Mais de là à dire que notre Ligue 1, elle est forte. Non, Denis, il a résumé. Trop d'enjeux pour descendre, donc ça tue le jeu. On s'emmerde là-dessus. Devant, pas d'enjeu parce que le PSG est trop fort par rapport au reste. 10 points d'avance, c'est ça.
Il y a une équipe et le donc, reste du monde.
Ce championnat, et en plus, il est invisible et il est illisible, donc ce championnat est pourri. Ça, voilà, c'est comme ça.
Aucun intérêt.
Okay. Non, et puis,
je veux dire, c'est magnifique ce qu'ils ont. Il faut surtout pas dire que ce que les clubs français ont réalisé n'est pas magnifique. Je veux dire, Brest, c'est le petit poussé, c'est le club qui, par miracle, arrive à se retrouver là. Lille fait un parcours. Moi, je suis vraiment estomaqué par le parcours de Lille. Mais on n'est qu'en 16e de finale, 16e, 8e de finale. Regardons un peu plus loin si effectivement t'as deux clubs qui sont en quart de finale. Là, on pourra se gargariser de notre championnat et de cette Ligue 1 qui a retrouvé un niveau. Mais là, vous rendez compte que les clubs français ont disputé en 69 éditions 5 finales de Ligue des Champions en tout. Et on n'en a gagné qu'une. On n'est même pas au 5e rang européen, on est au 7e rang européen. À égalité avec l'Écosse, à égalité avec la Roumanie, on est derrière, largement derrière.
Les
Pays-Bas, derrière le Portugal. Donc arrêtons, c'est pas parce qu'il y a eu cette saison, ce début de saison exceptionnel, que notre Ligue 1 est redevenue compétitive.
Je sais. Okay. Et puis phénomène pour toi sur ces 4 clubs français, on profitait à la formule juste pour répondre. Il y a 5 finales, pas de Ligue des Champions, 5 finales de Coupe d'Europe, c'est ce que tu voulais nous dire.
De C1. Reims, Saint-Etienne.
Ah oui,
l'Olympique de Marseille deux fois et le Paris Saint-Germain une fois.
Il a complètement raison, quand même. C'est pour ça qu'on le garde en moi.
J'y sais.
D'accord, on sera au Stade de France la prochaine fois. Bon, grâce à ça.
Il y a quelque chose que sur le championnat, vous parlez de 18 et de deux équipes qui descendent. Ça met une pression énorme aux équipes, mais ça les apprend à gagner et à faire match nul. Je vais juste donner comme un exemple. Au rugby, en Angleterre, il n'y a plus d'équipes qui descendent parce qu'il manque des clubs en première division. Et les Anglais, maintenant, qui viennent en France, ils disent on comprend nos problèmes du rugby anglais parce que maintenant, dans notre championnat, tu gagnes ou tu perds, tu t'en fous. Et donc, mentalement, ça les a bouffés au niveau de la performance. Ils viennent dans le top 14, tous les week-ends. C'est très compliqué parce qu'il y a des descentes et il y a des montées. Et donc, je pense que la première division...
de foot en ayant deux équipes qui descendent, et ben tous les matchs c'est la guerre, les mecs ne lâchent rien. Et ben grâce à ça t'as quatre équipes qualifiées.
Oui, mais sans...
tu ne peux pas dire que le championnat de France de foot il est catastrophique actuellement. C'est impossible de dire ça.
Et puis pardonnez-moi, mais il y a quatre clubs français.
Tu devrais venir avec moi le dimanche après-midi regarder les matchs avec Roland Courbis pendant qu'on fait la
le problème c'est que Philippe ne voit pas les matchs, parce que moi je vois quelque
chose. Roland est dans...
il joue le match nul, si tu préfères.
Denis, il en voit beaucoup des matchs depuis la loge du Parc des Princes.
Il voit que les matchs au sommet, Denis. Il voit pas les petits matchs.
Il voit les matchs premium.
Les copains, il y a quatre clubs désormais. Il y a désormais quatre clubs qui se qualifient pour la Ligue des Champions. Ouais. Quand on voit l'argent ramassé, ça a été dévoilé cette semaine, plus de 50 millions pour Brest,
75 pour Lille.
Voilà, donc c'est énorme. Maintenant,
c'est super pour...
Alors oui, on parle à chaque fois du titre de champion de France et souvent c'est acquis au Paris Saint-Germain. Mais maintenant, la deuxième, la troisième et la quatrième place, quand les clubs se rendent compte de la manne financière que ça représente, ça peut aussi attirer tout le monde pour aller jouer ces quatre premières places.
Alors ça va attirer du monde, mais ça va aussi scinder encore un peu plus le championnat entre les équipes qui ont de l'argent et les équipes qui n'en ont plus. Parce que aujourd'hui, les droits télé domestiques ne rapportent rien et des clubs comme Montpellier, des clubs
Angers
et tout ça ne vont rien retirer quasiment des droits télé, alors que ceux qui sont qualifiés pour la Ligue des Champions vont faire un gap énorme, et ça va encore plus séparer en deux le championnat, en trois même, parce que le Paris Saint-Germain est encore un cran au-dessus, mais je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne chose par rapport à une unité
qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent? Brest, ok, mais ils ont besoin de cet argent pour juste survivre entre guillemets. Brest, ça ne va pas aider le club à devenir tout ça.
Mais moi j'ai un doute,
tout d'un coup
j'ai un doute
que... une grosse puissance du football français, parce que cet argent-là il va pas être comment dire réinvesti, ils vont pas être de nouveau
le président de Brest disait cette semaine qu'il avait l'intention d'en faire un grand club.
Ils peuvent mettre de l'argent dans les structures.
Le problème c'est que on l'a vu avec Brest, on l'a vu avec Lille. Est-ce que ça va se reproduire? Est-ce qu'il va y avoir un succès comme celui-là l'année prochaine avec d'autres équipes françaises? J'en doute, parce que la formule telle qu'elle est, les grandes équipes ne vont pas faire les mêmes erreurs que cette année. Et ça va être encore plus difficile de se qualifier pour les barrages.
Alors, moi je pense que pour les barrages, ils vont se qualifier. Par contre, je pense que les grandes équipes vont plus se méfier d'entrée. En revanche, je pense qu'il y aura moins d'équipes. Alors, peut-être que le PSG va rectifier le tir. Qui vont se qualifier directement dans les 8 premiers? Non. Par contre, on se qualifiera toujours entre 16 et 24. Regarde ceux qui sont éliminés. C'est. Il y a Zagreb, ils sont qualifiés.
À Bologne.
Et puis Lille n'est pas forcément concernée, mais tu as des équipes comme Brest qui, avant, jouaient plutôt vers le bas du tableau. Ça peut être dangereux pour eux. Sur deux tableaux comme ça, là c'est passé et tu vois bien, ils sont au milieu de la Ligue 1 aujourd'hui. Donc si tu veux, il y a quand même un danger de niveau de la gestion du calendrier.
Quatre clubs français qualifiés en Ligue des Champions, est-ce qu'on est injuste avec la Ligue 1? Sachez que sur le compte X des grandes gueules du sport, on est toujours à 50-50 et vous êtes des milliers à avoir voté.
Et on remercie Denis Charvet qui a changé d'avis une minute avant.
Evan nous appelle au 32-16, il veut participer au débat. Salut Evan.
Bonjour à tous. Bonjour.
Bon, tranche le débat. On est injuste ou pas?
Pour moi non, clairement pas. Effectivement, donc en Ligue des Champions, faut pas dire, il y a eu des bonnes performances, clairement. Maintenant, moi en Ligue 1, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'écart entre le PSG et ses concurrents. Moi, pour moi, c'est pas normal. Clairement, ils devraient les Lyon, les Marseille, les Lille, etc. Ils devraient faire beaucoup mieux en Ligue 1. Et puis, les équipes de bas de tableau, c'est pareil, il y a un écart plus grand que certains autres championnats, que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Italie.
Même l'Espagne.
Même l'Espagne. Donc au final, pour moi, on peut être plus exigeant vers la Ligue 1. En tout cas, en Ligue des Champions, oui, c'est sûr, en Coupe d'Europe, ça a été bien cette année, faut pas se mentir. Pour l'instant, pour l'instant.
Pour l'instant, évidemment, on va suivre nos clubs français. Ce sera dans 10 jours le début de ces 16e de finale. Merci beaucoup, Evan, d'avoir été avec nous. Je voudrais vous entendre sur, évidemment, la particularité de ce tirage au sort, ce match entre le Paris Saint-Germain et Brest. Pour tout dire aux auditeurs, je voulais en faire un débat parce que moi, je trouvais ça bien, qu'il y ait ce match entre le Paris Saint-Germain et Brest. Et j'adorais cette nouvelle formule. Et vous m'avez tous dit, cette confrontation, c'est pourri. C'est ça?
Évidemment. T'as la même cet après-midi, en Ligue 1.
Oui.
Donc, je sais pas, la Coupe d'Europe et ses matchs, face à des adversaires européens, ça doit être quelque chose d'exceptionnel. Rencontrer le Real, rencontrer Manchester City, rencontrer même un club italien, un club allemand de haut niveau, c'est ça qui fait le sel de la Coupe d'Europe. Si tu rencontres des adversaires que tu joues deux ou trois fois par an, je vois pas beaucoup l'intérêt.
Pardon, mais quand tu voyais des Real Barça en Ligue des Champions, on était très heureux de les voir.
C'est en demi-finale. Voilà, tu joues
deux,
il y a eu Liverpool Chelsea aussi des années, c'était c'était en demi.
Bah donc oui. L'argument du de la confrontation.
Non, mais c'est surtout t'avais un Liverpool Chelsea, tu savais pas que t'allais gagner. Là t'as un Brest à Paris, malheureusement face à des adversaires français, tu sais bien que le PSG est largement au-dessus. Une année, on a beaucoup de suspense.
Une année en quart de finale Ligue des Champions, je crois qu'on a eu Lyon-Bordeaux.
Oui.
Ça passionnait personne.
Mais non.
C'est faux.
Mais non,
ça... Il y a une équipe qui va en demi-finale, mais c'est faux.
À part les footies comme ça intéresse.
Ceux qui s'intéressent au foot,
tu te projettes, mais si on parle du match en lui-même, c'est pas qu'il y a aucun intérêt.
Regarde.
C'est pas du tout attractif quand même.
Attends. Alors est-ce que en huitième de finale l'année dernière, le match entre le PSG et la Real Sociedad, c'est mieux? C'est largement mieux.
Oui, c'est mieux.
Pourquoi c'est mieux?
Bien sûr, parce que c'est deux clubs exotiques.
Pas forcément.
C'est plus exotique. Si, il a raison. Il a raison.
Ah, donc la Sociedad c'est exotique.
On s'en moque d'être exotique.
Non, mais ils ont craqué.
Mais non, on préfère avec les
stops.
On va manger les
fumes des
tortillas. Non, mais imaginez, vous saviez que Brest avait l'intention à un moment de disputer ses matchs des champions au Stade de France.
C'est exotique
de
Brest.
Imaginez qu'il l'ait fait. Donc il s'est dépensé des milliers d'euros, des dizaines de millions, même, pour arriver au Stade de France.
Et il joue contre le PSG.
Non, mais là, t'imagines
le truc. Peut-être, sauf qu'au final, ça va se passer à Guingamp. Cette rencontre, ok. On aurait tous préféré un Brest-Real Madrid pour les Brestois. Et je comprends que les Brestois n'aient pas envie de jouer le PSG.
Bien sûr.
Mais pour nous, de le voir, franchement, ça ne change pas grand-chose.
Moi, je ne vais pas le regarder.
On est sûr d'avoir un club en 8ème de finale.
Je te le dis, je le regarde.
Le regarder, toi.
Mais largement, bien sûr.
Moi, je ne le regarde pas du tout. Au retour, je serai là parce qu'il y a le coupe de champagne à la main.
Ah oui, d'accord.
Sinon, je ne le pas demain. Je sais, surtout, c'est pour les joueurs.
C'est à 18h45, c'est l'heure de la
paix. Pour les joueurs, j'entends pour les joueurs, mais pour les spectateurs.
Pour les joueurs, ils jouent le PSG deux fois par saison, ou trois s'ils les jouent en Coupe de France. De jouer une équipe anglaise ou espagnole, ça a beaucoup d'intérêt pour eux et même pour les supporters.
Ok, bon, voilà ce que l'on pouvait vous dire sur ce débat. J'étais absolument pas d'accord.
T'étais seul, mais là, t'as pris une rousse, là.
Est-ce qu'on est toujours 50-50?
Alors, je vais vérifier ça, mon cher Philippe.
Ah,
je
sais
que ce qui t'anime, c'est de gagner les bras de fer.
On est passé à 51, non.
Je pensais qu'on allait le retourner, Philippe, mais pas du tout, il est fort.
Je pensais que vous alliez me becquer contre.
Est-ce qu'on est injuste avec la Ligue 1? Moi, je suis toujours à 50-50.
Je crois que c'est bloqué ton truc.
Je sais pas, en tout cas, je suis toujours à 55.
C'est pas de changement, c'est quand même curieux.
Et on reparlera évidemment de la Ligue des Champions dans cette émission.
Et Christophe est en train de voter pour passer à 51. Oh, c'est énorme.
Non, mais attends, Tim,
juste. Il y a sa communauté, Christophe, qui bombarde. Là, aujourd'hui.
Les copains, nous sommes, vous l'entendez, il y a du bruit derrière nous. Nous ne sommes pas dans les conditions naturelles, classiques pour les GG du sport. Nous sommes en direct de l'Accor Arena de Bercy à l'occasion du Grand Slam de Paris, le Grand Slam de judo. Morgan Maury, notre commentateur, est avec nous. Quels sont les enjeux de cette matinée? On le rappelle, hein, les grandes stars françaises ne sont pas présentes aujourd'hui.
Oui, ce sont les éliminatoires, il faut rejoindre les demi-finales, les quarts de finale au moins pour espérer un repêchage puis une médaille de bronze, les demi-finales, la finale. Il y a plusieurs Français à suivre. La tête d'affiche aujourd'hui, c'est Shirine Boukli, troisième des Jeux Olympiques. Elle est en moins de 48 kilos, elle est multiple championne d'Europe, médaillée en championnat du monde. Elle n'a pas encore commencé sa route aujourd'hui. Autre jeune femme à suivre, c'est Faïza Mokhdar en moins de 57 kilos. Il n'y a pas Sarah Léonie Cizik, la médaillée des JO, mais elle, c'est un phénomène. L'an dernier, elle s'était imposée en moins de 63 kilos. À regarder, il n'y a pas Clarissa Agbenou, Manon De Keter qui est une médaille en championnat du monde, et surtout la jeune Melchior Korn, deux fois championne du monde junior. Elle vient de gagner son premier combat. C'est vraiment une jeune fille très intéressante à suivre. Et chez les garçons, Walid Kiar, cinquième des Jeux Olympiques en moins de 66 kilos, sera le leader de la délégation masculine. Et en moins de 60 kilos, un œil aussi sur le jeune Romain Valadier-Picard qui fait partie de cette génération fort spéciale aux Jeux Olympiques. On l'avait découvert, les auditeurs avaient découvert Johan Benjamin Gaba, deuxième, et Maxime Gaillap en bout, troisième. C'est cette génération-là, Romain Valadier-Picard.
Allez, on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, Morgan Moré. On se retrouve un petit peu plus tard. On se retrouve dans quelques instants pour vous parler de la Coupe Davis. Oui, Julien Beneteau.
Il y a 723 votes. Donc ça peut pas être du 50-50, un chiffre impair. Il y a forcément un vote de plus pour quelqu'un.
On n'a pas fait la décimale, c'est pour ça. Il y a un problème, Julien. Il y a un problème sur le règlement. Si t'as perdu, tu ne viendras pas plein. Hein.
Déjà que je suis censuré, c'est limite à Corée du Nord, je peux pas parler. Et ensuite, les votes sont truqués.
Oui,
c'est ça. Un mélange, c'est un interville de la Corée du Nord. C'est très rare comme émission. Comme jeu télévisé, c'est très rare.
Il y a encore les vachettes.
Oui, oui. Mais pas en France.
Très bien. Julien Beneteau se plaint. Ça tombe bien, nous allons parler de la Coupe Davis. Est-ce que c'est le grand retour de la Coupe Davis? Il n'aura pas le droit à la parole, même si c'est notre spécialiste tennis. Allez, à tout de suite sur RMC. On sera en direct d'Orléans.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport en direct du Paris Grand Slam de judo.
Jean-Christophe Drouet.
10h31 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Denis Charvet, Philippe Saint-André, Julien Beneteau. Restez bien avec nous dans 10 minutes. On va vous parler du zapping. On s'en fout pas avec les sifflets à l'encontre de Jégou et Oradou hier au Stade de France. Les doutes d'Alexis Pinturo. Bref, beaucoup d'informations à vous donner. Vous me direz si ça vous intéresse ou non. Et puis à partir de 11h, restez bien avec nous. On reparlera du 15 de France et de ce carton rouge de Romain Ntamack. Est-ce un énorme coup dur pour le 15 de France? Mais tout de suite, on parle tennis.
On attendait cette victoire depuis 1932. La France a donc battu les États-Unis au terme d'une finale de suspense, mais également d'émotion.
Allez, il y a un coup droit penalty, ça. C'est fini. La France remporte la Coupe de Davis.
C'est fini, Michel.
C'est fini. C'est fini. Oh là là. Extraordinaire.
RMC, le dossier des GG.
Et c'est reparti pour la Coupe du Monde, pour la Coupe Davis 2025. Oui, c'est un peu la Coupe du Monde des tennisman, évidemment, avec ce week-end le premier tour de la phase qualificative et un grand changement cette année, la fin des phases de groupe en septembre et le retour du format domicile extérieur avant le Final 8 en novembre à Malaga. Ça ne bouge pas. Pour ce premier tour, c'est comme l'année dernière, le format domicile extérieur. Et ce week-end, donc, les Bleus reçoivent le Brésil à Orléans. On va retrouver notre envoyé spécial, Anthony Reich. Salut Anthony.
Salut les grandes gueules. Bonjour à tous.
Ah oui, alors avec ce format domicile extérieur, les Bleus ressentent-ils le parfum de la Coupe Davis d'antan?
Oui, il y a toujours cette excitation et cet honneur de porter le maillot tricolore. Mais dans l'effectif, seul Pierre-Hugues Herbert a connu le format historique de la Coupe Davis. À 33 ans, le doyen des Bleus s'éclate à nouveau.
J'étais un peu nostalgique de l'ancien format. Je le suis toujours. Hein. Mais sur cette rencontre, j'ai le sentiment que ce soit un petit peu un renouveau. C'est une petite salle. Et je pense qu'il va y avoir une très belle ambiance. J'espère que c'est un beau point de départ pour une nouvelle histoire un peu en France avec la Coupe Davis.
L'équipe de France rejoue à domicile pour la première fois depuis février 2022. La fédération ayant notamment refusé d'organiser la phase de groupe de septembre ces dernières saisons. Pour sa toute première sélection, Giovanni Mpechi Pericard savoure.
Ah, c'est une fierté. Présenter la France, avoir le numéro, le nom, c'est quelque chose de magique en tant que joueur de tennis. Ouais, moi j'ai toujours aimé la Coupe Davis. Quand j'étais petit, je regardais énormément les matchs, surtout la France parce que c'était télévisé, mais je loupais les devoirs, je voulais pas faire les devoirs, je voulais regarder les matchs à chaque fois. Bon, samedi, quand il y avait que le double, c'était un peu dur.
Ce week-end, les Bleus reçoivent le Brésil au Palais des Sports, salle vétuste d'une capacité de 3000 places, alors que Muiron le Captif, hôte de l'historique tournoi Challenger vendéen, était candidat. La fédération a tardivement choisi Orléans, point central d'une des nouvelles vice-présidentes de la FFT. Le capitaine Paul-Henri Mathieu essaye de trouver du positif.
Non, on va pas dire que c'est pénalisant. Effectivement, c'est une salle qui est assez intimiste. Le public sera vraiment proche du court. Donc les joueurs vont vraiment se sentir portés. De toute façon, on peut pas l'étendre, la salle. Donc les joueurs maintenant sont vraiment contents de jouer dans cette salle-là. Ils ont pris leur repère. Maintenant, ils ont hâte de commencer.
Et cette campagne 2025 commencera par du lourd. La nouvelle pépite brésilienne, João Fonseca, tombeur d'Andrei Rublev à Melbourne, défiera en ouverture le numéro 1 français Hugo Humbert à 14h30.
Merci beaucoup Anthony Reich pour ce reportage autour de la Coupe Davis 2025 qui repart donc ce week-end. Ce France-Brésil que vous suivrez sur RMC, RMC Sport.fr. Est-ce le retour de la grande Coupe Davis? Pour oui, pour vous, oui ou non? Denis Charvet?
Non.
C'est non. Philippe Saint-André?
Non.
C'est non. Julien Beneteau?
Non, pas encore.
Non, pas encore.
Non, toujours pas. Bientôt, c'est un
on début, réclamait quoi. Le format domicile, oui, extérieur. Ben
d'accord, mais là,
ouais, mais grande,
en phase finale, là.
La grande.
Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut
la
tout
grande,
raser.
Avec la finale.
La grande, c'est avec la finale sur le domicile voilà. Extérieur. C'était 3 jours, les 5-7.
Oui. Vous ne croyez pas à cette version 2.0 là?
C'est mieux que rien.
La phase de groupe qualificative du mois de septembre, c'était une catastrophe. Vraiment. Il y avait 4 sites. L'année dernière, les États-Unis se sont retrouvés dans un groupe à aller jouer en Chine au mois de septembre après l'US Open. contre je ne sais plus quelle équipe. Il y avait quatre équipes, il y avait trois rencontres à faire. Ça, c'était catastrophique. Donc le retour extérieur domicile, c'est top. Après, voilà, il y a cette finale à 8 qui, à mon avis, ne bougera pas pendant de nombreuses années. Et
pourquoi de nombreuses années?
Parce que là déjà l'Italie, c'est plus à Malaga, ça va être en Italie pendant 3 ans. Ils ont signé pendant 3 ans. On parle du calendrier qui est surchargé, que à la fin, un des arguments c'était la finale de la Coupe Davis n'intéresse que 2 nations. Bon, bah, je suis désolé.
Ce qui est vrai.
D'accord. Le Final 8.
C'est plus vrai maintenant.
Mais si, parce que tu perds en quart de finale le mardi de la semaine du Final 8. Quand il y a la finale le dimanche, ceux qui ont perdu le mardi.
T'es plus là.
On est plus là. Ce mardi.
Oui, c'est vrai.
L'argument de la longueur des saisons, etc., c'est qu'avant, il n'y avait que 10 joueurs qui étaient concernés par cette fin de saison à rallonge. Alors que là, sur la Final 8, c'est 40 joueurs. 40 joueurs du top 5. Il y a 40% des joueurs professionnels qui vont être concernés par la phase finale et de devoir finir très tard la saison. Donc ça aussi c'est un gros problème. Donc non.
Mais par contre, comment tu peux faire autrement?
Il faut laisser
l'ancienne formule.
Alors ça fait un tour de plus. Et voilà. En fait, Philippe Saint-André en off tout à l'heure m'a dit pourquoi ils ont changé une formule qui marchait exceptionnellement.
Pour le pognon.
Deux choses. Le pognon. Certaines fédérations ne s'y retrouvaient pas quand ils organisaient des rencontres de Coupe Davis.
Ça donc elle ne marchait pas de manière spectaculaire non plus.
Parce qu'à un moment donné, il y avait certains joueurs, des grands joueurs, qui faisaient l'impasse et qui ne jouaient pas. Mm-hmm. Et ça, c'est éphémère sur l'histoire d'une compétition.
Oui, parce que
ça veut dire qu'on a donné le pouvoir à certains joueurs plus grands qu'une compétition qui est vieille de 100 ans ou de 120 ans. C'était une hérésie de la part.
Leur obliger de jouer.
Et voilà, exactement. Donc il faut se mettre d'accord, l'ITF, l'ATP, la WTA. Bon, encore une fois.
On va pas refaire les débats qu'on a déjà fait sur l'histoire de Davis et pourquoi on en est venu là aujourd'hui. Maintenant,
je vais juste raconter une petite histoire. La Coupe Davis, elle faisait rêver.
Bien sûr.
Moi, qui jouais au tennis, j'ai été ramasseur de balles pour la finale de la Coupe Davis à Grenoble. C'est le plus beau souvenir de ma vie.
Moi, 91, c'est pour ça que je joue au tennis.
C'est le plus beau. Il y avait Noah contre Jimmy Connors
ou Arthur
Ashe. C'était exceptionnel. Quand il y a une compétition qui fonctionne, il ne faut pas la bouger. Nous, le Six Nations, une compétition exceptionnelle. Exactement. Si on invite l'Afrique du Sud, ça va ressembler à rien. Et cette Coupe de Vis qui était exceptionnelle, ils l'ont vendue pour de l'oseille. Et maintenant, elle n'intéresse plus personne.
Oui, mais ce que te dit Julien, il y a quand même des fédérations qui ont eu du mal à survivre.
Parce qu'il faut s'organiser autour.
Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais quand même, il y a une raison pour laquelle il y a eu ce changement.
La raison, c'est qu'il y avait trop de dates, que ça.
Et pas assez de.
Regarde aujourd'hui, il y a un problème de calendrier, c'est-à-dire qu'on fait disputer la Coupe de Vis en même temps que le tournoi de Montpellier, parce qu'il y a un tel trop-plein de calendrier.
Mais
oui.
Ce n'est pas normal, on doit sanctuariser.
C'est un problème de gouvernement, bien sûr.
Moi, je vais prendre une année. Un exemple. L'année où on a gagné en 2017, le premier tour, c'est Japon-France au Japon. Il y a un joueur au Japon qui est une star et qui était très fort dans le top 10. Nishikori. Le mec ne joue pas la rencontre. Et le lendemain de la rencontre, il est dans un ATP 250 sur terre battue à Buenos Aires.
Ouais, ça c'était honteux.
Parce qu'il prend 250 000 de garantie pour aller là-bas. Mais on marche sur la tête, c'est une hérésie.
Oui, mais de tout temps ça a été comme ça.
Mais dans ces cas-là, le mec ne joue pas la Coupe des
Vies. Il n'y a pas eu de sanction, parce que l'obligation de jouer.
Parce que les instances internationales sont très faibles.
Mais c'est ça.
Et puis parce que tous les pays n'ont pas. Bien sûr. Ne portent pas de la même manière la Coupe des Vies dans leur cœur.
Et que nous en France, il ne faut pas se leurrer, on a toujours été aussi très bien lotis par la fédération pour jouer la Coupe Davis, parce qu'on est une fédération riche grâce à Roland Garros, et donc du coup on avait la possibilité aussi de gagner très bien notre vie grâce à la Coupe Davis, chose qui n'est pas la même chose, qui n'est pas vrai pour toutes les fédérations. Je sais que quand on a joué la Belgique en finale, Goffin, ce qu'il a gagné pour jouer avec la Belgique, c'était dérisoire par rapport à ce que les Français, le cinquième Français, gagnaient.
Donc on peut comprendre que certains joueurs préfèrent disputer des 250 que d'aller avec leur nation.
Oui, mais dans ce cas-là, c'est un truc.
Ouais, tu les obliges pas.
Il fallait régler ce problème. Je suis d'accord. Mais maintenant qu'on a, donc je rappelle, pour le premier tour là, c'est format domicile extérieur comme l'année dernière.
Et septembre aussi. Ça c'est bien.
Après, il y aura le Final 8. Mais non, déjà,
c'est un
est-ce
chemin.
Que...
Oui, oui, ça va redonner l'engouement que la France joue contre le Brésil.
à Orléans, devant 3000 personnes, c'est la base. Si ça avait été au Brésil, devant 5000 Brésiliens en furie, c'est ça l'essence de la Coupe Davis, c'est de jouer chez soi ou à l'extérieur. C'est pas d'aller jouer sur un terrain.
Donc on y revient petit à petit.
On y revient petit à petit, et ça, c'est bien.
Moi, j'ai envie de te poser une question, Julien.
Dis-moi.
Ton plus bon souvenir au tennis, c'est quoi ?
Oui, moi, il y a certaines rencontres de Coupe Davis qui sont... moi, déjà, quand je t'ai dit, quand j'étais gamin et que je suis allé voir la finale de 91, on entendait la Michel Drey et Jean-Paul Hott au commentaire, leur émotion déjà dans la voix, c'est pas la même que Eric Salio quand on gagne en 2017. Parce que ça faisait 59 ans qu'on n'avait pas gagné, c'était un événement monstrueux. Et Yannick, il a redonné envie à tout le monde. Et nous, il y a des rencontres de Coupe Davis qu'on a jouées. La première finale en 2014 en Suisse, à Lille
face à la Suisse,
devant Federer, Wawrinka. Ouais. 25 000 personnes.
C'était énorme.
On s'était retrouvés en haut des escaliers. Et là, j'en parle, j'en ai encore des frissons. De descendre sur le terrain pour la cérémonie, c'est des choses qu'on dit. Voilà. Là, moi, j'avais l'impression d'être un joueur du 15 de France qui allait jouer contre l'Angleterre au 3
mais bien sûr.
C'est ça l'histoire.
C'était
ça l'histoire de notre sport.
Parce qu'il régnait, et il va régner sans doute aussi à Orléans ce week-end. Une ambiance que tu n'as pas dans les autres tournois de tennis.
Exactement.
Une ambiance un peu chauvine.
Il faut
bien le dire. Mais ça plaît aussi de temps en temps d'être soutenu par un public, de représenter son pays.
Voilà, tu rentres dans une arène et tu représentes ton
pays. C'est tellement rare. C'était 3-4 dates dans la saison. C'était exceptionnel. Mais il faut aujourd'hui que l'ATP et l'ITF arrivent à s'entendre. Parce que là, on a l'impression qu'ils se tirent dans les pattes et que personne n'a envie que cette compétition renaissent de ces centres et redeviennent la compétition phare qu'elle a été pendant des années. C'était le même niveau qu'un tournoi du Grand Chelem, la Coupe Davis.
À force de polémiques, on voit qu'ils ont changé leur fusil d'épaule et qu'ils ont réintroduit petit à petit le format domicile extérieur. Rapidement, pour terminer le débat, Julien.
Ce qui est très dur, Christophe a un petit peu résumé ça, ce qui est très dur pour l'ATP, qui est très puissant parce que c'est eux qui régissent le circuit. Mais les cinq piliers de notre sport, c'est les quatre Grand Chelem et la Coupe Davis. Et ces cinq piliers, ils sont pas sous l'autorité de l'ATP. Donc pour l'ATP, c'était très compliqué de se dire putain, mais la Coupe Davis, c'est plus fort que nos événements, que les Masters 1000, que les trucs. Et donc c'est là où effectivement les gouvernances doivent essayer de préserver nos joyaux.
Allez, 10h43, on se retrouve dans quelques instants. Évidemment, France-Brésil, vous suivrez cette rencontre tout au long du week-end sur RMC. Nous sommes toujours en direct de l'Accor Arena de Bercy à l'occasion du Paris Grand Slam de judo. On retrouvera Morgane Maury un petit peu plus tard. On se retrouve, nous, dans quelques instants pour le zapping des GG et notamment les sifflets à l'encontre d'Oscar Jégou et Hugo Radou, les deux joueurs du 15 de France hier au Stade de France, mais aussi les mots, les doutes d'Alexis Pinturo. C'est le zapping. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h45 de retour dans les grandes gueules du sport en direct de l'Accor Arena de Bercy pour le grand slam de judo. Vous allez suivre cette compétition tout au long du week-end sur RMC, mais également sur RMC Sport 1. Ça a débuté, prise d'antenne, c'était à 10h. Si vous voulez évidemment admirer les plus grands champions de ce sport ou en tout cas la relève, n'hésitez pas à aller regarder RMC Sport 1. Sinon, vous écoutez RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Denis Charvet, Philippe Saint-André, Julien Beneteau à partir de 11h. On se pose la question du carton rouge de Romain Ntamack. Est-ce un énorme coup dur pour le 15 de France? Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC,
le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner dans le zapping des GG, ce sont les sifflets à l'encontre d'Oscar Jégou et Hugo Radou. On s'en fout pas. Denis Charvet.
Non, on s'en fout pas.
On s'en fout pas. Philippe Saint-André.
On s'en fout pas.
On s'en fout pas. Julien Bennett.
On s'en fout pas.
On prend Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Ok, les deux joueurs du 15 de France, Oscar Jégou et Hugo Radou, ont donc été sifflés par une partie de public du Stade de France. Je crois d'ailleurs qu'on peut écouter ces quelques sifflets. Ils sont rentrés à des moments différents et notamment c'était Oscar Jégou qui a fait une entrée solitaire et donc les sifflets se sont un peu plus entendus.
Oscar,
sifflé hier au Stade de France, même si évidemment ce n'était pas une bronca. On rappelle que les deux joueurs ont pour l'instant bénéficié en première instance d'un non-lieu, mais il y a un appel qui a été fait par la plaignante. Je vous propose d'écouter Fabien Galthié qui a évidemment été interrogé sur ces sifflets à l'encontre de ces deux joueurs. On l'écoute.
Une fois de plus, c'est un sujet sur lequel on assume nos choix. Nous ne tolérons pas les divergences, nous ne tolérons pas les excès, que nos joueurs aient des comportements plus irréprochables possibles. Ils ont été jugés, ils ont été arrêtés, et c'est normal. Mais ils ont le droit à une deuxième chance. Ils ont le droit à la rédemption. On assume, et sur ce match-là, ils nous ont rendu la confiance qu'on leur a donnée.
Et voilà pour les propos de Fabien Galthié. Oui, Denis.
Non, il y a deux choses. À l'annonce de l'équipe, ils ont été applaudis. Puisque les noms ont été cités par la majorité du grand public. Et je n'ai pas entendu vraiment de sifflets. Donc c'est ça qui est. Là, on parle vraiment de quelques sifflets. Parce qu'au Radou, il n'en a pas eu. Mais Jégou, oui, il en a eu quelques-uns. Mais c'est très. Franchement, des tribunes, c'est.
C'était pas marquant.
Non, mais pas du tout. Et puis, je le répète, ils ont scandé leur nom quand même. Donc c'est quand même significatif.
Ok,
me semble.
Christophe.
Non, mais j'attendais pas ce qu'il y ait une bronca du Stade de France. Rappelez-vous, lorsqu'ils sont revenus en club à La Rochelle pour Jégou et Oradou à Pau, ils ont même été acclamés par les supporters. Là, on est dans une enceinte rugby. Je pense que le rugby français est derrière ces deux joueurs. C'est peut-être quand tu dépasses le cadre du rugby que les gens se posent des questions sur le comportement de ces gens-là, même si à l'intérieur du rugby. Hier, il y avait. J'étais avec Lénaïque Corson en studio, qui est une ancienne joueuse de l'équipe de France, qui est une consultante. Et hors micro, elle était assez sévère sur le fait que la fédération ait rappelé les deux joueurs. Elle trouvait que c'était trop tôt. Mais une fois les micros ouverts, elle n'a pas trop osé le dire, si tu veux. Parce que à l'intérieur du rugby français, ça le fait pas de critiquer encore. D'ailleurs, Denis le premier, Denis n'a jamais critiqué le fait que ces deux-là soient rappelés. Pour toi, c'est tout à fait naturel. Donc
non, c'est pas naturel, c'est par rapport à la justice.
C'est la doxa du rugby français qui veut ça. Et donc aujourd'hui, il n'y a rien à voir.
Ma position a toujours été en fonction de la justice, du rendu de la justice. Je suis désolé.
Ok, on a déjà fait ce débat évidemment dans cette émission. Philippe Saint-André.
Moi, pour moi, je trouve que c'est prématuré. Moi, j'aurais attendu l'appel. Je pense que ça aurait été mieux pour le rugby français que ces deux joueurs reprennent en équipe de France en tournée au mois de juin. Après, c'est un choix politique, c'est un choix maintenant qui est assumé. J'ai vu, il y a eu un sondage, je crois qu'il y a 65% de personnes dans le milieu du rugby qui sont pour. Mais pour moi, l'équipe de France, c'est de l'exemplarité. Ils ont fait une erreur. Il faut aussi leur donner une deuxième chance.
Bien sûr, ils ne sont pas condamnés.
Voilà. Mais moi, j'aurais attendu le résultat de l'appel. Voilà.
Ok, c'était plutôt justifié donc pour toi. Julien, on passe ou c'est bon ?
Non, Philippe a dit. Je voulais poser la question à Philippe, il a répondu.
Il a répondu, donc c'est parfait. On va passer.
Tu n'avais surtout pas envie de répondre.
Une autre information.
Comment ? On t'avait surtout pas envie de répondre.
Non, pas du tout.
Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est les doutes d'Alexis Pinturo sur la suite de sa carrière. On s'en fout pas, Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
Julien Beneteau.
Je m'en fous pas.
Denis Charvet.
Je m'en fous pas.
Sérieusement blessé au genou droit lors du Super G de Kitzbühel, alors qu'il s'était déjà rompu les ligaments croisés du genou gauche un an plus tôt, Alexis Pinturo a reconnu hier s'interroger donc sur la suite, je le disais, à donner à sa carrière à un an des Jeux Olympiques d'hiver. Il a donné une conférence de presse hier et je vous propose d'écouter ses propos.
J'y ai pensé fortement, c'est-à-dire que déjà l'année dernière, après ma blessure, j'y avais réfléchi. Je pense que même à l'heure où on se parle, le choix n'est pas totalement clair. J'ai besoin encore quand même, quoi qu'il en soit, de temps, de réflexion. Je pense qu'il va falloir aussi que je discute avec les entraîneurs pour savoir éventuellement si je continue, dans quelle direction je m'oriente. Ce qui est sûr, c'est que je ne pourrai plus m'orienter si je continue dans ce que je faisais jusqu'à maintenant. Il faudra clairement que je fasse des choix. Là, je me suis vraiment laissé le temps et le recul nécessaire pour déjà faire le point de moi vis-à-vis de moi-même et puis derrière voir comment et vers ce vers quoi on veut aller, que ce soit personnellement mais aussi avec l'équipe de France derrière.
Christophe, il y a un vrai doute. Hein.
Oui.
On sent que même lui ne le sait pas.
Alors, je pense qu'il n'a pas voulu annoncer sa retraite internationale hier parce que c'est un peu trop proche de sa blessure. Il veut laisser le temps de la réflexion. Mais on sent qu'il est quand même touché et c'est terrible. Ce garçon qui, en plus, avant sa blessure l'année dernière, avait été épargné par les blessures tout au long de sa carrière. Et là, il coup sur coup, et il en prend deux qui vont encore retarder son retour, qui ont fait déjà la première blessure. On a plus reconnu le pintu qu'on avait avant. C'est normal quand tu te fais une si grave blessure. Il a hésité, il n'a pas pris le départ d'une seule descente cette saison. Et il prend le départ du Super G à Kitzbühel et il se blesse à nouveau. Moi, j'ai un peu de. Je doute quand même du retour en compétition d'Alexis dans les années à venir.
Les champions, là, quand on a une échéance aussi importante, il y a les Jeux Olympiques.
Il y a que ça qui le maintient, je pense.
Mais, je veux dire, c'est.
Oui, mais il sera pas pour les Jeux.
Il a des doutes physiquement, mentalement, et il a des doutes sur son ski. Parce que ces dernières années, il avait décidé de se réorienter vers le super G et la descente, alors que sa force, c'est le géant. Et là, il le dit, faut que je passe le point avec les entraîneurs pour savoir si je continue, dans quelle voie. Donc on peut supposer qu'il va laisser tomber la vitesse, parce qu'à mon avis, il a trop peur avec ses dernières blessures. Donc se réorienter vers le géant, mais de savoir, il va se laisser le temps de savoir s'il peut être compétitif en géant l'année prochaine pour les Jeux Olympiques. C'est le dernier truc qu'il maintient entre guillemets. Autrement, effectivement, ça sent la fin.
Moi, je pense qu'il va s'arrêter. Oui. Je vois pas comment ça.
Sa déclaration, elle est inquiétante.
Elle est inquiétante parce qu'elle est pleine de bon
sens. De doutes
et puis de bon sens. À un moment donné, je crois qu'il a trop.
En fait, c'est étonnant parce qu'il a convoqué une conférence de presse pour donner de ses nouvelles, mais au final, il ne dit pas grand chose. Il essayait met sur le tapis ses doutes, quoi.
Ouais, entre les lignes, tu te dis, voilà, à l'entraînement, il retrouve pas aucune sensation, etc. Et donc. Ça sent la fin de carrière, hélas.
Allez, troisième information dans le zapping des GG à vous donner. C'est un choc historique en MMA ce soir. On s'en fout pas, les copains. Denis Charvet.
On s'en fout.
Ok, Philippe.
On s'en fout.
On s'en fout.
C'est bien parce que c'est retransmis par RMC, mais c'est pas grave.
Vous inquiétez pas, ça va intéresser forcément quelqu'un. Julien Benedetto.
Ça va intéresser Morgane Maury, donc je vais laisser Morgane Maury en parler.
Oui, voilà. Okay.
Ouais, Morgane m'intéresse.
Oui, oui, voilà. Morgane, vas-y, ouais. Lance-toi.
Vous êtes bien rattrapé.
Vous êtes gentil, hein.
Ouais,
vas-y, là, vous m'aurez renvoyé en tribune.
T'as vu les fumiers quand même, c'est fou. Hein. C'est sur RMC Sport 1 ce soir, l'affiche entre le français Nassourdine Imamov et une des légendes de l'UFC Israël, Adesanya. Morgane Maury, donc, est notre spécialiste sport de combat. Il est avec nous. Rebonjour, Morgane.
Bonjour.
Alors pourquoi faut-il absolument regarder ce choc? Essaye d'éduquer un peu ces incultes-là que tu vois dans les grandes gueules.
Parce qu'après les deux chances mondiales de Cyril Gane, perdues contre John Jones et Francis Ngannou, c'est peut-être le troisième combat le plus important de l'histoire pour un Français dans l'UFC, qui est la plus grosse organisation de MMA. Ce sera un marchepied forcément pour la ceinture des poids moyens pour Imamov, qui est cinquième, qui est classé cinquième parmi les challengers. En face, il y a une des stars du MMA, un ancien champion, le néo-zélandais Israël Adesanya, un garçon de 35 ans qui a des jambes et des bras interminables, une allonge de basketteur qui est extrêmement spectaculaire. Et Imamov a complètement changé de statut depuis un an. Il a changé de coach après une année 2023 difficile. En 2024, il a battu 3 top 10 à la suite dans cette catégorie. Et il se place comme un prétendant à un match pour la ceinture. Ce sont d'excellents boxeurs debout, Imamov et Adesanya. Et la clé sera mentale, a expliqué le combattant français au micro de RMC Sport cette semaine à Riyad. Premier round à 21h ce soir en Arabie Saoudite.
Ouais,
21h
en France. Sur RMC
Qu'est-ce que
Sport
tu expliques
1,
bien évidemment. Je veux le regarder.
Mais il donne envie, Morgane.
Je veux le regarder.
Voilà. Il pourrait te vendre n'importe quoi, Morgane.
C'était excellent.
Incroyable. Même le pays de Galles, il pourra en faire une belle nation.
Oui, oui, je pense qu'il peut.
C'est fou, hein.
Tu vas me dire comment t'es le rugby.
Et il vendrait du sable dans le désert.
Ouais.
C'est fou. Merci, Morgane. On se retrouve évidemment dans les grandes gueules du sport pour le judo à l'occasion de ce Paris Grand Slam. Nous sommes toujours en direct de l'Accor Arena de Bercy. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. On va parler de rugby, de Romain Ntama qui s'est ombre au tableau, ce carton rouge hier face au Pays de Galles. Est-ce un énorme coup dur pour le 15 de France? Oui ou non? Les GG ne sont pas d'accord. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport en direct du Paris Grand Slam de judo.